France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des dizaines de milliers de personnes en ce moment au Sable d'Olonne pour acclamer Charlie Dalin. Le marin vainqueur ce matin du Vendée Globe, il rentre au port dans quelques dizaines de minutes après un tour du monde express.
C'était une course vraiment intense, j'ai l'impression d'être parti avant-hier. Franchement, j'ai l'impression d'avoir fait une course de 48 heures, tellement c'était intense, tellement c'était rapide.
Comment expliquer la vitesse et les écarts creusés avec les autres concurrents? Nous sommes sur place dans un instant. À suivre encore la nouvelle baisse des naissances en France l'an dernier, au plus bas depuis 1945. Mais la population française, elle, augmente légèrement. On détaille les derniers chiffres de l'INSEE dans quelques minutes. Et avec vous, à partir de 13h30, avec notre invité également, on parlera aussi des familles monoparentales. Elles concernent 3 enfants sur 10. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. François Bayrou, lui, abat ses cartes cet après-midi. Déclaration de politique générale pour le Premier ministre à 15h. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
François Bayrou qui n'annoncera ni suspension ni abrogation de la réforme des retraites.
Exactement, pas d'abrogation, pas de suspension de la réforme. Le Premier ministre a tranché et l'a annoncé à ses alliés ce matin. Le PS peut-il encore toper dans ces conditions? Les socialistes attendent la déclaration de politique générale pour donner leur réponse.
A tout de suite en direct de l'Assemblée nationale. Nous serons à Gaza également. Un accord de trêve est pour très bientôt, dit le Qatar ce matin. Et nous verrons que certains soldats de la marine française ont dévoilé des informations stratégiques en utilisant une appli pour courir. 13h50, c'est la France. De plus en plus de boîtes de nuit spéciales ados, c'est-à-dire sans adultes et sans alcool. Cyril Petit du journal Ouest France nous attend sur la piste. Juste avant 14h, c'est une chanson, Marie Desplechin, La Mano Negra et Frédéric Pommier. Dans une demi-heure, les prévisions météo, c'est la journée la plus froide de la semaine. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Il y a un trophée pour le vainqueur du Vendée Globe. C'est une coupe en bronze de 10 kilos fabriquée dans le département de la Sarthe. Mais la vraie récompense pour Charlie Dalin, ce sera dans une heure la remontée du chenal des Sables d'Olonne au milieu de la foule. Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous.
Vous êtes sur place, Clara, remontée à partir de 14h en raison de la marée. Mais il y a déjà beaucoup de monde autour de vous.
Du monde massé le long du chenal, bercé par les haut-parleurs que vous entendez derrière moi, qui diffusent de la musique, évidemment, bercé aussi par les sirènes des bateaux qui redescendent du port vers l'océan pour se positionner et pour accueillir en champion, comme il se doit, Charlie Dalin tout à l'heure. Fini le silence et les quais gelés de ce matin pour le passage officiel de la ligne au large. Maintenant, nous sommes sous un grand soleil, un beau ciel bleu. Beaucoup de locaux sont là, c'est plus facile pour se déplacer au dernier moment. Comme vous, Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Vous habitez à Saint-Prouan, c'est à une heure de route d'ici. Vous êtes venu avec vos 3 enfants, 14 ans, 10 ans, 3 ans et demi. Ils peuvent bien louper l'école aujourd'hui, vous m'avez dit, car la voile, c'est l'école de la vie.
Exactement, c'est une merveilleuse école que nous aimons leur faire suivre parce que ça leur donne des exemples de courage, d'abnégation, de dépassement de soi et également d'humilité face aux éléments. Comment les marins arrivent à appréhender toutes ces choses, les vivre et les surmonter.
Et ils sont en ce moment avec nous au bord du quai, avec leur drapeau. Ça tombe d'ailleurs très bien, les enfants avaient, vous m'avez dit, un favori au départ.
Et oui, incroyable mais vrai, ils avaient tous parié sur Charlie Dalin et donc ils sont évidemment très heureux de cette victoire.
Le sourire sur toutes les lèvres, Charlie Dalin qui sera acclamé dans une heure. Les drapeaux évidemment sont prêts, on attend peut-être un feu d'artifice. Ferveur populaire garantie, remontée du chenal de 14h à 14h30 jusqu'à la remise du trophée.
Merci Clara Lecoq-Réal avec des connaisseurs donc, qui avaient mis Charlie Dalin. C'est vrai que c'était l'un des favoris de ce Vendée Globe. Ils l'avaient mis donc dans leur pronostic. Le vainqueur qui est en ce moment en mer, devant les Sables d'Olonne. Et depuis ce matin, 8h25, heure à laquelle il a passé la ligne, il patiente sur son bateau et nous serons tout près de lui dans quelques minutes. Le deuxième, Johan Richaume, lui est attendu entre 17h et 21h. Avant cela, le froid qui ne saisit pas que les spectateurs du Vendée Globe, jusqu'à moins 10 degrés dans le massif central et le nord-est ce matin. Ce mardi est donc la journée la plus froide de l'hiver pour l'instant. Autre particularité, pas de pluie annoncée sur le pays avant 10 jours, ce qui n'a pas été le cas depuis des semaines. Les entreprises du BTP qui ont pris beaucoup de retard peuvent enfin avancer. Illustration avec ses couvreurs rencontrés à Paris par Paul Sertilange.
Sur le toit de cet immeuble de 8 étages, Jérôme, le chef de l'équipe, peut enfin profiter.
Là, on a Notre-Dame, qui est juste là en face, avec la flèche. Puis bah, avec un joli soleil comme ça, non, forcément, là, c'est agréable. Ouais, d'accord, ok, il fait un peu froid, mais bon, hormis ça, c'est quand même sympathique, non?
Bien plus que l'an dernier, en tout cas.
C'est pas qu'il a plu tout le temps pendant des mois et des mois, mais par contre, il a plu très très régulièrement, et souvent de manière assez orageuse. C'était quand même assez chiant. Parce qu'on peut pas le prévoir, parce que c'est assez soudain. Quand on fait des petits chantiers, si c'est facile à bâcher, ça va. Mais quand il y a des gros bâchages à faire, et puis d'un seul coup, il y a des gros orages qui arrivent, c'est un peu plus chaotique.
Résultat, explique Gianni, des chantiers en dents de scie.
Quand il pleut et qu'on peut pas s'abriter, on bâche le toit et on travaille pas, on va pas se mouiller.
Alors après, ce qui est chiant, c'est qu'effectivement, bah, ça retarde aussi les chantiers d'après.
Sur celui du moment,
ardoise, zinc et plomb.
Ça va, grâce à ce qu'il appelle un parapluie bricolé sur la partie avec échafaudage.
Le bâchage complet tout autour avec des bâches, des cordages, enfin bon voilà. Depuis 5-6 mois, ouais, ça nous sauve régulièrement quand même.
Les chantiers l'an dernier ont aussi été freinés par les JO, explique Mériadec Olanier, délégué général du GCCP, syndicat notamment des couvreurs parisiens.
Beaucoup d'immeubles ont préféré repousser ces chantiers à l'après-Jeux Olympiques. Donc l'année 2024 a été une année moyenne, on va dire.
Avec cependant une hausse des interventions pour réparer des fuites.
Et oui, l'année 2024 a été la plus pluvieuse à Paris depuis l'an 2000. Je reviens au froid, 34 départements sont en vigilance jaune. Ce qui pose la question des sans-abri. Tous n'ont pas de solution d'hébergement, même temporaire. Certains dorment dans des voitures, des halls d'immeubles, des parkings. Julien, lui, découvre la rue depuis 7 mois à La Rochelle. Il a 37 ans, ancien assistant administratif du marché de Rungis. Il dort d'habitude dans une tente à La Rochelle et l'ouverture d'une salle d'accueil supplémentaire avant-hier lui permet de s'abriter.
Je découvre le froid, vraiment, ce que c'est, parce que c'est compliqué de trouver un logement directement quand on arrive ici, tu vois. Mais là, en ce moment, je suis dans une tente dans le froid. Bon, en ce moment, il y a la salle climatique, donc ça va. Heureusement, il y a le préfet qui a fait un arrêté, mais autrement, c'est compliqué, vraiment. Mais ici, il y a beaucoup d'aide et c'est quand même important de le dire que La Rochelle, c'est quand même important niveau aide, vraiment. On peut prendre une douche, on peut boire du café. On n'est pas à plaindre, on a la santé quand même, mais le froid, là, il commence à piquer quand même. Voilà, c'est juste ça. Là, c'est ouvert 5h30 jusqu'à 8h30 du matin. Donc ça veut dire qu'on peut rester au chaud, avec du chauffage, mais on peut pas dormir, on peut se poser, charger les téléphones, trucs comme ça. Au moins, c'est déjà ça. On rigole comme on peut, on s'occupe, quoi. Voilà, on se convient, on joue aux cartes, et voilà. Après, on fait comme on peut, on s'adapte.
Et le parcours de Julien, qu'on vient d'entendre au micro d'ici La Rochelle, fait écho au baromètre des territoires réalisé par l'entreprise Elab et publié aujourd'hui. Elab a interrogé 10 000 Français représentatifs de la population dans 12 régions. Sur leur état d'esprit, ils se disent désemparés, vulnérables et ils craignent, à l'image de ce qui est arrivé à Julien, le déclassement. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Félix. Le pouvoir d'achat est l'une de leurs premières préoccupations.
Oui, et cette pression pour boucler la fin du mois ne concerne plus uniquement les plus modestes. Bernard Sananès est le président d'Elab.
Plus d'un Français sur deux considèrent qu'ils redoutent de devoir changer leur façon de vivre par manque d'argent. Cette pression touche quasiment au même niveau les professions intermédiaires, les cadres, les employés et les ouvriers.
Autre enseignement du baromètre, l'inquiétude économique s'accompagne de la peur de l'agression physique et des craintes liées au changement climatique et à la santé, car il n'y a pas une crise mais un empilement de crises d'après Elab. Ces craintes touchent tout le monde, les villes comme les campagnes, les Français de gauche comme de droite, riches ou modestes. Et face à cela, ils aspirent à la tranquillité et c'est un paradoxe, quitte à gagner moins d'argent. Laurence Bedeau est associée chez Elab, elle décrit un nouvel équilibre.
Un glissement qui nous est apparu post-Covid, mais qui se confirme aujourd'hui massivement, du passage d'une société qui était favorable au travailler plus pour gagner plus, qui désormais fait le choix à 70% d'avoir plus de temps libre, quitte à gagner moins d'argent. C'est faire le métier qui me plaît plutôt qu'une grande carrière avec une fonction avec des responsabilités.
Laurence Bedeau qui résume, les Français cherchent moins de clinquants, mais plus de petits bonheurs.
Caroline, Félix, j'ajoute à cette enquête ce chiffre donné par la Banque de France ce matin au sujet de l'endettement. Le nombre de dossiers de surendettement a augmenté de 10,8% entre 2023 et 2024. 134 000 dossiers l'an dernier, mais c'est moins qu'en 2019. Voilà donc l'état de la France et l'état d'esprit des Français au moment où François Bayrou va prononcer sa déclaration de politique générale devant les députés cet après-midi. C'est Elisabeth Borne qui la prononcera pour lui devant les sénateurs. Alors pour tenir davantage que les 3 mois de son prédécesseur, Michel Barnier, le Premier ministre, a tenté ces derniers jours de passer un accord avec la gauche pour qu'elle ne le censure pas. Marie Mollet, on vous retrouve à l'Assemblée nationale et au terme de ces discussions, François Bayrou affirme maintenant qu'il n'annoncera pas cet après-midi la suspension de la réforme des retraites.
Oui, exactement. Ni abrogation, ni suspension de la réforme des retraites. François Bayrou a enfin levé le voile sur ses intentions et l'a dit ce matin devant ses alliés lors d'un petit déjeuner du socle commun. À la place, le Premier ministre va proposer tout à l'heure une conférence de financement. En clair, réunir autour de la table les partis et les partenaires sociaux jusqu'en juin, nous confirme Matignon, pour remettre cette réforme borne en chantier et trouver une alternative avant l'été. Mais cette idée du Premier ministre ressemble à s'y méprendre à celle qu'il avait lui-même déjà proposée fin décembre au chef de parti. La gauche avait dit non merci. Alors, à quoi ont servi ces 10 jours de négociations à Bercy? Et surtout, la question centrale, le PS serait-il prêt à toper pour cette offre au rabais par rapport à leur exigence de départ? Pour l'instant, pas de réponse officielle. Et ici, ce matin, les socialistes ont déserté les couloirs de l'Assemblée. Un compte-rendu de la réunion de groupe était prévu, brusquement annulé. Le député Boris Vallot, passé en coup de vent, a simplement glissé « bonne année ». Et son collègue Arthur Delaporte temporise avant de repartir, interrogé à la volée par Claire Flochel.
Je ne crois que ce que je vois, j'attends le Premier ministre dans 3 heures. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce stade, le compte n'y est pas. Et rien n'est abouti, tout est à faire. Je ne vois pas comment, à ce stade, on peut dire qu'il y a un accord de non-censure avec le gouvernement.
Alors, est-ce qu'un chemin est encore possible, par exemple en offrant des concessions au PS sur le budget cette fois? Ce matin, François Bayrou, en tout cas, a également annoncé qu'il ne prévoyait pas de nouvelles hausses d'impôts et qu'il envisageait une convention démocratie, nous rapporte-t-on, pour aborder notamment le dossier de la proportionnelle.
Il reste moins de 2 heures pour achever d'éventuelles discussions, déclarations de politique générale à partir de 15h à l'Assemblée nationale. Merci Marie Mollet en direct avec les moyens techniques de Raymond Albouy. On l'a bien compris, la question des retraites est au cœur du débat politique en ce moment. Elle est évidemment liée à la démographie française. Plus la population vieillit, plus il faut d'argent pour payer les pensions. Et c'est le cas, elle vieillit cette population. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
L'INSEE vient de dévoiler son bilan 2024 et le nombre de naissances a encore diminué l'an dernier.
Oui, la France atteint son niveau le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 663 000 bébés ont vu le jour en 2024. C'est 150 000 de moins qu'il y a 10 ans, une baisse qui s'inscrit dans le long terme. Elle est liée à un recul de la fécondité. Les femmes font des enfants de plus en plus tard et elles en font moins. 1,6 en moyenne, d'après ces derniers chiffres de l'INSEE. Elles en faisaient 2 en moyenne en 2010. Un repli qui se vérifie pour toutes les tranches d'âge, excepté les femmes qui ont entre 40 et 50 ans. Ces dernières voient leur taux de fécondité très légèrement augmenter.
Alors, vous nous l'avez dit, Alice, c'est une tendance qui dure depuis plusieurs années. Et il y a un an, quasiment jour pour jour, Emmanuel Macron avait annoncé un grand plan pour inverser la donne. C'était le 16 janvier 2024.
On fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique.
Réarmement démographique, on se souvient de l'expression. Bon, depuis, il y a eu la dissolution. Des mesures ont-elles pu être prises, Alice ?
Alors c'est difficile, en effet, l'instabilité politique ne favorise pas la mise en place d'actions concrètes. Les spécialistes de la reproduction appellent les pouvoirs publics à passer à l'action. Ils réclament notamment des campagnes d'information et la création d'un grand institut de la fertilité. Du côté de la politique familiale, la réforme du congé parental se fait toujours attendre. Annoncée en 2023 par Aurore Berger, alors ministre aux Solidarités, le dossier est toujours dans les cartons. Guère plus d'évolution sur la question de l'accueil du jeune enfant. Les crèches manquent de personnel, les assistantes maternelles sont de moins en moins nombreuses. Faute de solution, 20% des parents sont contraints de garder leurs petits à la maison. Autant de leviers à activer pour inciter les Français à faire plus de bébés.
Explication Alice Cachaner et on en reparle avec notre invité à partir de 13h30. On parlera aussi des familles monoparentales. L'INSEE a mené une grande enquête sur elles, selon les milieux sociaux, selon les régions. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. Sur le volet immigration, Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières, nous apprend que le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne l'an dernier, ce nombre est tombé à son plus bas niveau depuis 2021. Un peu plus de 239 000 entrées irrégulières dans l'UE l'an dernier. Parmi les chantiers colossaux qu'aura à mener le gouvernement de François Bayrou, s'il reste en poste assez longtemps pour cela, il y a la rénovation du parc nucléaire français. Emmanuel Macron a annoncé la construction de nouveaux réacteurs, les EPR. Mais la Cour des comptes s'est montrée ce matin extrêmement sévère sur ce programme. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Elle a d'abord mis en doute la rentabilité du premier EPR français, celui de Flamanville dans la Manche, qui avec 12 ans de retard vient enfin d'être connecté au réseau national.
Oui, alors il y a 4 ans, dans leur rapport, les sages pointaient l'échec du projet EPR. Il y a du mieux, EDF s'est ressaisi, mais la facture du réacteur de Flamanville, vitrine du savoir-faire de la filière nucléaire, cette facture, elle a encore bondi, elle atteint maintenant près de 24 milliards d'euros. C'est plus de 7 fois le coût prévu au lancement. À ce stade, le projet n'est donc pas rentable, calculent les sages, et ils alertent sur le flou qui entoure la construction des 3 futures paires de réacteurs EPR2 annoncés par Emmanuel Macron à Belfort. La filière nucléaire est loin d'être prête, met en garde Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes.
Les problèmes de financement, les problèmes de délai, les problèmes de maîtrise des coûts sont encore très importants. Ça pèse sur l'avenir de cette filière EPR et donc il y a encore des clarifications très importantes à apporter sur la rentabilité des projets et sur leur financement. Ce sont des enjeux qui se chiffrent par dizaines de milliards d'euros. C'est donc une question très importante pour les Français, dans la mesure où, in fine, tout ça repose sur l'effort des contribuables, les citoyens.
D'autant qu'au Royaume-Uni aussi, retard et dérive de coûts impactent un autre chantier nucléaire, celui d'Hinkley Point. Les sages recommandent fermement à EDF d'attendre avant de se lancer dans l'aventure d'un nouvel investissement en Angleterre, le projet Sizewell C. Difficile d'affronter deux risques en même temps, disent-ils, car EDF doit réussir en priorité en France. Pour le premier président de la Cour des comptes, il ne faut pas trop charger la mule.
Merci Delphine Simon.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Ce ne sont pas les premières discussions entre Israël et le mouvement islamiste Hamas pour conclure un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mais rarement les pays qui supervisent ces échanges n'ont été aussi optimistes. Après les États-Unis hier, le Qatar, aujourd'hui le Qatar qui héberge ces négociations, affirme qu'on en est au stade final et il est temps pour la population. La défense civile de Gaza rapporte aujourd'hui la mort d'au moins 18 personnes, parmi lesquelles plusieurs enfants dans des bombardements aériens. L'armée israélienne, elle, parle de frappes contre des terroristes. Face au carnage, un collectif palestinien a même appelé sur les réseaux sociaux les Gazaouis à manifester aujourd'hui pour la paix. Reportage dans les rues de Gaza de Rami Al-Maghari avec Thibault Lefebvre à Jérusalem.
Les rues du centre de Gaza sont bondées de déplacés. 90% de la population avant la guerre survit désormais sur moins d'un tiers du territoire. Et sur beaucoup de téléphones, comme celui de Hadra, il y a l'image de cet appel à manifester relayé par des milliers de comptes sur les réseaux sociaux, avec un dessin d'un point levé, un drapeau palestinien en fond, et au premier plan, ces mots « On veut être digne ».
Bien sûr que je suis d'accord. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas être d'accord. Il n'y a plus de dignité ici. Vous le savez, à chaque fois que quelqu'un est obligé de partir de chez lui, il s'enfuit sans rien prendre. Il n'y a rien de plus humiliant.
Pour beaucoup d'habitants, l'appel sera peu suivi car les enjeux sont ailleurs. En coulisses, se joue à Doha, au Qatar, l'avenir de la bande de Gaza et de ses déplacés donc, comme Hussein. Comme 80% des plus de 2 millions de Palestiniens de l'enclave, il a subi un ordre d'évacuation de l'armée israélienne.
C'est vrai, on peut vivre correctement et dignement, mais je n'y crois plus. On espère une seule chose, revivre la période d'avant le 7 octobre.
Un rêve pieux. Entre 70 et 80% des bâtiments du nord et du sud de Gaza sont complètement détruits et l'armée israélienne se prépare à renforcer encore son offensive en cas d'échec des négociations.
Thibault Lefebvre, correspondant de France Inter à Jérusalem. L'armée française, elle est préoccupée par l'imprudence de certains de ses soldats, en l'occurrence des sous-mariniers installés dans le Finistère à l'île Longue, dans la rade de Brest. Certains de ces militaires ont utilisé une application en ligne lors de leur footing, c'est l'application bien connue Strava. Le problème, bonjour Eric Biegala.
Bonjour Jérôme.
C'est que ces données publiques ont permis de connaître le calendrier des patrouilles des sous-marins français.
Oui, géolocaliser les footings de militaires, voire d'agents secrets, hein, via l'application Strava ne date pas d'hier. Hein. Dès le début de la mise en œuvre de cette appli de suivi des courses en 2017, militaires occidentaux, mais aussi israéliens ou russes, se sont jetés sur cette application qui permet donc de comparer leurs performances sportives, mais aussi de géolocaliser leur parcours. Par exemple, dès 2018, en Syrie, où les forces spéciales spéciales américaines disposaient de quelques bases avancées, discrètes censément, secrètes même, mais pas tant que ça, puisqu'on pouvait y repérer les footings de leurs militaires. En l'occurrence, l'enquête du Monde a permis de géolocaliser, mais aussi de repérer dans le temps les footings de plusieurs marins le long des quais où sont basés les sous-marins de la Force Océanique Stratégique. Et surtout, le moment où ces courses s'interrompent, signe manifeste que les hommes sont alors embarqués en mission, en plongée. Or, la date d'appareillage de ces sous-marins est une donnée essentielle du recueil de renseignements pour un compétiteur. Par exemple, chinois. Un ingénieur de l'armement basé à Brest nous confiait d'ailleurs qu'il y avait autour de la rade un peu trop de très jolies étudiantes chinoises que l'on croisait régulièrement dans les bars. Ces failles de sécurité via l'application Strava sont connues, surtout à Brest, où le journaliste Jean-Marc Manac, dans un article pour le Télégramme, révélait dès février 2018 que les agents de la DGSE, les services secrets français, y faisaient également leur footing juste en face de l'île Longue et qu'ils étaient bien entendu parfaitement repérables sur Strava.
Merci Éric Biégala pour ces précisions. À Rouen, trois cyclistes ont été fauchés ce matin en plein centre-ville. Trois femmes renversées. L'une a d'ailleurs son pronostic vital engagé. C'est une conductrice qui est en cause. Dans un premier temps, cette femme avait pris la fuite. Elle a finalement été interpellée, Christine Wurtz.
La conductrice a été interpellée devant les locaux de la gendarmerie de Buchy à une vingtaine de minutes de Rouen, moins de deux heures après les faits. Ce matin, vers 8h30, au volant de sa camionnette Renault Master, elle a percuté trois personnes rue Alsace-Lorraine à Rouen avant de prendre la fuite à très vive allure. Trois cyclistes ont été renversés, trois femmes dont l'une se trouve actuellement en réanimation. Son pronostic vital est engagé, précise le communiqué du parquet de Rouen. Une autre est gravement blessée, une troisième est plus légèrement touchée. Tous les effectifs de police ont été mobilisés ce matin pour stopper sa fuite car elle roulait très vite. Elle a été repérée dans le secteur de plusieurs communes de l'agglomération avant de s'engager sur l'autoroute A28. Il s'agit donc d'une femme née en 77 dont des témoins ont fait état de possibles intentions suicidaires selon le parquet. Selon nos informations, les gendarmes ont découvert plusieurs armes dans son véhicule. Elle est actuellement en garde à vue. L'enquête confiée à la police judiciaire de Rouen va devoir maintenant déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un acte délibéré.
Information signée ici Normandie. Là, c'est une escroquerie dont on commence à avoir l'habitude. Escroquerie aux brouteurs. Des milliers de Français en sont victimes chaque année. Ces escrocs, souvent installés en Afrique, prennent contact avec leurs victimes en ligne, les séduisent avant de leur soutirer de l'argent. Mais là, l'affaire a pris une proportion impressionnante puisqu'une Française s'est fait escroquer 830 000 euros par un brouteur qui s'était fait passer pour l'acteur Brad Pitt. Il lui envoyait des photos et des vidéos générées par l'intelligence artificielle. La plupart des victimes sont des personnes vulnérables qui n'utilisent pas beaucoup Internet, rappelle Victor Bessa, enseignant expert de la technologie et spécialiste des brouteurs.
Ça va être plutôt des personnes qui sont isolées, des personnes qui ont peu de connaissances de l'informatique et du web, et des personnes qui peuvent, à un moment dans leur vie, ça va pas bien, elles ont envie d'y croire. Parce que quand on voit les photos, ça peut paraître un peu grotesque, mais c'est des gens qui sont extrêmement vulnérables. Et le jour où la personne va nous dire « Chérie, mon frigo est vide, j'ai plus d'argent, est-ce que tu peux me filer 20 euros ?» Ou « Est-ce que j'aimerais te voir, mais j'ai pas d'argent parce que pour le billet de train parce que je suis au chômage bah, ?» Ils vont aller payer. Vous êtes une veuve isolée, vous voyez un homme qui est très beau, de la cinquantaine, a une petite barbe, tout ça. Bah, elle aussi peut tomber. Je dirais, il y a enfin quelqu'un qui s'intéresse de nouveau à moi, je revis.
Victor Bessé au téléphone de Clémentine Sabrier, TF1 qui avait recueilli le témoignage de cette femme, l'a finalement retiré de sa plateforme car elle subissait depuis moquerie et harcèlement. Comme promis, nous retournons en Vendée, au Sable d'Olonne, pour nous rapprocher du vainqueur du Vendée Globe 2024-2025, le Normand Charlie Dalin, qui est toujours en mer. Il attend la marée favorable pour remonter le chenal attendu par des dizaines de milliers de personnes. Nous serons en ligne avec l'un de nos envoyés spéciaux sur place dans une minute, Jérôme Val. Avant cela, écoutons Charlie Dalin. C'était ce matin, juste après avoir coupé la ligne, après 64 jours, 19h, 22 minutes et 49 secondes.
Une rafale, jamais vécu des émotions pareilles. C'était de la folie, là. Cette ligne arrivée avec la lumière comme ça du jour qui commençait à percer. J'ai jamais vécu ça de ma vie, c'était incroyable. C'était incroyable comme moment. C'était de la joie. C'est la plus belle ligne d'arrivée de toute ma carrière, de loin. Quoi. Ce Vendée Globe 2024, j'en rêve depuis le lendemain de l'arrivée du Vendée Globe 2020. Et c'est 4 ans que je me suis battu avec l'équipe, qu'on a travaillé dur, on a tout donné pour faire ce super bateau, ce super massif Santé Prévoyance, pour, pour essayer de penser ce bateau, pour le mettre au point. Et tout le monde s'est donné à fond, le bateau il était nickel et voilà, on savait 4 ans qu'on vit pour ça. Et ça y est, on a atteint l'objectif. C'est super.
Charlie Dalin ce matin après avoir franchi la ligne à bord de son monocoque massif. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes un peu réchauffé depuis ce matin ?
Oui, avec le soleil, c'est super, super spectacle.
Vous nous avez fait vivre en direct 8h25, cette arrivée sous la lune et dans le soleil, le vent, arrivée qu'on n'oubliera pas. Et depuis, Charlie Dalin, patiente, interdiction de quitter le bateau.
Eh bien oui, c'est le règlement du Vendée Globe, le règlement peut-être un peu cruel, mais bon, vous me direz, Charlie Dalin n'est peut-être pas à quelques heures près, mais oui, il a dû rester depuis son passage de ligne ce matin sur son bateau. Il n'est plus tout seul sur son bateau, évidemment, il a été rejoint par une partie de son équipe technique, il a été rejoint également par sa compagne et son petit Oscar, 7 ans, qui a raté l'école, mais il a un bon mot d'excuse ce matin pour rejoindre son papa qu'il n'a pas vu depuis plus de 64 jours. Et Charlie Dalin, oui, ne pouvait pas quitter son bateau. Figurez-vous que le règlement précise que s'il avait dû quitter son bateau pour peut-être aller sur la terre ferme, faire un tour ou faire un coucou, eh bien c'était 10 000 euros d'amende. Donc il a préféré rester et en ce moment, on est vraiment à une trentaine de mètres de ce bateau. Il a le nez fixé sur ce chenal qu'il va emprunter dans une grosse demi-heure maintenant.
Quand la marée sera plus favorable. Alors Charlie Dalin signe le tour du monde en solitaire le plus rapide de l'histoire. Jérôme, il a créé un écart énorme avec d'autres concurrents qui sont des concurrents renommés et eux aussi sur des bateaux neufs. Comment l'expliquer ?
Alors c'est vrai que pour un Vendée Globe réussi, il faut un alliage entre un bateau performant et Charlie Dalin l'a dit à l'instant, ça fait depuis l'arrivée du dernier Vendée Globe qu'il avait franchi en tête mais avait terminé deuxième, et bien il avait pensé qu'à cette échéance depuis 1447 jours, il n'a pensé qu'à ce Vendée Globe et qu'à ce bateau qu'il a imaginé et qui a été mis à l'eau il y a un peu plus de 2 ans. Il faut un marin évidemment doué et Charlie Dalin a 40 ans cette année et Charlie Dalin vraiment a la maturité on va dire du marin très aguerri pour un tour de la planète. Il a l'expérience donc d'un précédent Vendée Globe. Et puis, il faut aussi avoir de l'audace. Et Charlie Dalin a eu l'audace. Par exemple, je vous donner un seul exemple. Mais par exemple, quand dans les îles Kerguelen, dans le sud de l'océan Indien, il a décidé, lui, d'aller tout droit dans une énorme dépression qui se posait sur la route des concurrents. Quand les autres concurrents, eux, ont décidé de contourner cette dépression, donc de faire beaucoup plus de route que lui, et ben le choix a été extrêmement payant. Il a pris les commandes du Vendée Globe pour quasiment ne plus jamais les lâcher. Et puis je terminerai, Jérôme, en disant que pour faire un beau vainqueur, il faut aussi un deuxième, ouais. Un dauphin, un très beau dauphin. Et Johan Richomme a parfaitement joué ce rôle, on va dire, d'empêcheur de tourner en rond autour de la planète. Il a vraiment mis sous pression Charlie Dalin jusqu'à hier soir encore. Et Charlie Dalin n'a jamais pu relâcher vraiment sa monture et sa navigation, et ce qui explique qu'il a eu effectivement ses temps canons autour de la planète.
Johan Richomme, deuxième, donc, est attendu dans la soirée au Sable d'Olonne. Merci Jérôme Val, en direct depuis la Vendée sur Inter. Alors, on s'intéresse à tous les concurrents sur France Inter. Charlie Dalin, vainqueur, mais on n'oublie pas Violette d'Orange, notre navigatrice beaucoup plus loin dans l'Atlantique Sud, qui, depuis qu'elle a passé le Cap Horn, a eu beaucoup de problèmes. Son lot de galères, mais manifestement, ça va un peu mieux. Elle nous a enfin envoyé cette carte postale ce matin.
Ça y est, je suis enfin sortie de la tempête. C'était dur. Oh, je pense que c'était un des moments les plus durs de mon Vendée Globe. Il y avait 40 nœuds, enfin jusqu'à 45. C'était vraiment dur. Le bateau tapait dans tous les sens à chaque vague. Et j'avais peur que tout se casse. J'étais vraiment pas sereine. Et je pense que le plus dur est derrière moi maintenant. Donc ça me rassure. Je vais avoir du coup plusieurs jours de réparation parce que j'ai ma colonne qui marche pas comme d'habitude. Ça va faire la 10e fois que je la démonte. Et là, je vais essayer de raccourcir les chaînes, enlever des maillons pour essayer encore quelque chose de nouveau. Donc ça va être encore un petit bricolage. Et puis après, il va falloir en fin de semaine, dès que je peux, monter dans le mât. Pour ça, il faut qu'il n'y ait pas trop de vent et il faut qu'il n'y ait pas trop de mer. Mais voilà, l'idée c'est d'aller récupérer une pièce en tête de mât pour l'installer sur le J3 pour pouvoir remettre la voile et repartir normalement. Et là il fait de plus en plus chaud aussi, ça c'est un bonheur parce que je peux aller dehors sans avoir les doigts congelés. Et il doit faire autour de 15 degrés je pense, bah ça me fait chaud au cœur. voilà pour les petites news et à bientôt.
Et nous aussi, ça nous réchauffe d'avoir enfin des nouvelles de Violette d'Orange. 13h29 sur Inter. à suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Olivier Proust. Puis à 13h30, toutes vos questions sur la population française. L'INSEE publie son bilan 2024, nouvelle baisse du nombre des naissances. L'an dernier, l'espérance de vie à un haut niveau. On peut aussi parler des familles monoparentales. 3 enfants sur 10 vivent avec un seul de leurs parents. 0145 24 7000 pour être avec nous dans quelques minutes. 13h45, notre feuilleton avec le basketteur de l'équipe de France, Vincent Poirier. On passe la semaine chez lui, à Istanbul, où il joue, et nous serons à son domicile aujourd'hui. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit du journal Ouest France et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien, de la chapelle d'Aligné dans la Sarthe à Bonneval en Eure-et-Loire, en passant par Marsac-sur-l'Isle en Dordogne, je vous emmène danser, Jérôme, et on verra qu'il n'y a pas d'âge pour ça.
Et avec vous, Frédéric, une romancière.
Marie Desplechin, autrice à la fois de livres pour adultes et de romans jeunesse, elle a aussi écrit un texte pour Ariane Ascaride que celle-ci reprend à la Scala à Paris. Et avec elle, nous écouterons Pas assez de toi de la Manon Negra, une chanson qui ramène instantanément Marie Desplechin à l'époque de ses 30 ans.
Merci à tous les deux, que c'est loin, et à tout à l'heure.
Enfin, au livre de poche, Le Grand Feu, le nouveau roman de Léonore de Récondo. Le grand feu de l'amour qui foudroie Hilaria, jeune violoniste prodige. Celui de la musique qui l'anime. Le grand feu qui brûle au cœur de la Venise baroque de Vivaldi. Le grand feu de Léonore de Récondo, un roman d'une intensité flamboyante, au livre de poche.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Olivier Proust.
Bonjour Jérôme.
Une après-midi encore bien froide.
Oui, ça arrive encore en hiver. On attend 1 à 2 degrés à Lyon.
C'est bien de le dire.
Oui, à Orléans, à Nancy, à Nantes ou à Clermont, 5 à Toulouse ou à Valence, comme à Amiens, mais 10 à 15 autour de la Méditerranée. Et il n'y aura parfois pas de dégel cet après-midi, sous des grisailles qui résistent en plaine entre l'Isère, l'Ain et les vallées savoyardes. Des poches de grisailles beaucoup plus localisées traînent également dans le sud-ouest et partout ailleurs. Le soleil brille largement. Et même si quelques nuages élevés circulent sur le nord et dans le golfe du Lyon, l'ambiance reste bien lumineuse. Changement de programme demain, avec des grisailles qui arrivent par la mer du Nord dès ce soir et qui gagneront progressivement la moitié nord du pays en épargnant toujours la façade atlantique. Les températures remonteront cette nuit dans le nord, mais les grisailles lâcheront un peu de bruine. On surveillera des sols glissants demain matin dans le quart nord-est. Plus au sud, encore des gelées fortes, des brouillards givrants, mais du soleil en journée. Mistral et Tramontane sont modérés encore aujourd'hui. Ils seront sensiblement plus forts demain.
Merci Olivier Proust, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
La voilà, la photographie de la population française de 2024. Elle est là sous nos yeux depuis un peu plus d'une heure et demie, grâce à l'INSEE qui a donc publié son bilan démographique 2024. Ces chiffres qui vont alimenter nos débats politiques et économiques dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça vaut donc la peine de les connaître et surtout de détailler leur évolution à travers le temps. C'est ça qui est le plus intéressant. On va faire ça avec vous, Sylvie Leminez. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes chef d'études démographiques à l'INSEE. L'INSEE, c'est l'Institut National de la Statistique. 0145 24 7000 pour vous interroger. Vous passez également par l'application France Inter. Je redonne les grands chiffres. Sylvie Leminez, la France compte 68 600 000 habitants, plus 0,25% en un an, 663 000 naissances. C'est un chiffre en baisse et qui est historiquement bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'espérance de vie, elle, est très haute, 85,6 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes. Un mot d'abord de la méthode. Comment est-ce que vous obtenez ces chiffres que vous nous avez livrés ce matin ?
Alors, chaque année, en janvier, l'INSEE publie le bilan démographique de l'année écoulée. Et pour ce faire, on se base sur les derniers chiffres du recensement de la population qui ont été diffusés en décembre dernier, sur la population au 1er janvier 2022. Et on connaît les naissances et les décès grâce aux données de l'état civil. On fait une estimation du solde migratoire et on en déduit la population française au 1er janvier 2025.
Vous avez parlé du solde migratoire, la différence entre les habitants qui ont quitté le pays et ceux qui sont entrés dans le pays, plus 152 000. Comment est-ce que vous obtenez ce chiffre ?
Alors en fait, le solde migratoire, on ne l'observe pas directement, on le déduit de l'évolution de la population une année donnée et de l'évolution des naissances et des décès. Parce qu'il y a deux facteurs en fait, d'évolution de la population chaque année. Le solde naturel, qui est la différence entre les naissances et les décès, et comme vous l'avez dit, le solde migratoire, qui est la différence entre les entrées sur le territoire et les sorties du territoire, qu'il s'agisse de personnes nées en France comme à l'étranger. Et donc le dernier solde migratoire qu'on connaît, c'est celui de l'année 2021 à 190 000 personnes, puisque le dernier recensement donne la population au 1er janvier 2022 et on l'estime ensuite.
Voilà, donc là, plus 152 000, c'est une estimation qu'il faudra ensuite consolider. Bon, il y a un chiffre qui frappe quand même dans ce bilan, même si on a pris l'habitude année après année, c'est la baisse du nombre des naissances qui se confirme.
Oui, en fait, on a une baisse des naissances depuis 2010, qui était le dernier point haut. Donc, comme vous l'avez rappelé, en 2024, on est à plus de 150 000 naissances en moins. Cette baisse des naissances, en fait, elle a été très brutale l'année dernière, entre 2022 et 2023. Hein, une chute des naissances.
Très forte.
Oui, mais la baisse se poursuit encore cette année, même si le rythme est ralenti. Et c'est pour ça qu'on arrive à un chiffre qui est le plus bas observé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et si ça diminue, c'est parce que la fécondité des femmes en âge d'avoir des enfants diminue.
Donc ça, c'est le nombre d'enfants par femme en âge d'avoir des enfants ?
Exactement, qui se situe à 1,62 en 2024.
Jamais cet indicateur n'avait été aussi bas depuis la Première Guerre mondiale.
Oui, alors le chiffre surprend. En fait, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'indicateur, en fait, il a oscillé à partir du milieu des années 70, plutôt autour de 1,8. Il a même dépassé 2 enfants par femme il n'y a pas si longtemps, du milieu des années 2000 au milieu des années 2010, et depuis il diminue. Et donc on arrive alors sur le champ de la France métropolitaine, pour lequel on dispose de séries très longues depuis le début du siècle dernier, un indicateur de même 1,59 en France dans l'Hexagone, et qui est exactement le niveau observé en 1919.
Il y a deux évolutions peut-être qui expliquent le fait que cette fécondité soit de plus en plus basse. Ce sont désormais les femmes de 30 à 34 ans qui ont la fécondité la plus élevée. Et puis l'âge moyen à l'accouchement, lui, poursuit sa hausse aussi.
Oui, alors c'est un phénomène qui est assez ancien en fait. Hein. Les femmes,
ont leur enfant à un âge de plus en plus avancé.
Oui, tout à fait. C'est pas du tout propre à la France. C'est quelque chose qu'on observe de manière générale. Alors au départ, c'est lié à des études plus longues, à l'activité professionnelle des femmes, au fait de vouloir vivre en couple avant d'avoir un premier enfant. Après, comme vous le dites, ce qui est particulier, c'est que en 2024, la fécondité baisse pour les femmes les plus fécondes, donc notamment entre 30 et 34 ans, mais aussi entre 35 et 39 ans, par exemple.
Pour toutes les tranches d'âge, finalement.
Pour toutes les tranches d'âge, sauf les 40 à 50 ans, où la fécondité avait diminué pour la première fois l'année dernière, mais là, c'est reparti un petit peu à la hausse. Ouais. Mais la fécondité est très faible après 40 ans.
L'âge moyen à l'accouchement, c'est 31,1 ans.
Oui.
En France, l'an dernier, donc c'est un âge qui a tendance à avancer. Bruno nous appelle de Dole. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Nous vous écoutons pour votre question.
Ben, comme l'a dit votre invité, c'est pas un phénomène spécifique à la France. Manifestement, je pense que dans cet Occident désenchanté, il n'y a pas qu'en France qu'on fait plus de gosses. Mmh. Donc, est-ce qu'elle pourrait nous donner quelques infos d'observation en dehors du territoire de l'Hexagone ? Mmh. Je pense que ce serait intéressant de connaître ce qu'elle sait là-dessus.
Merci Bruno pour votre question. Sylvie Leminez, phénomène européen, voire même au-delà ?
Oui, alors phénomène européen, très clairement, on observe une fécondité en Europe qui a diminué dans de très nombreux pays, notamment suite à la crise de 2008. Et en France, la fécondité a baissé plus tardivement et plus lentement que dans beaucoup d'autres pays européens. Mais c'est effectivement un phénomène assez généralisé, donc qui peut interroger sur les causes de cette baisse de la fécondité. Et pour autant, même si ces évolutions sont un petit peu à la baisse, baisse un peu partout, sauf dans quelques pays de l'Est de l'Europe. La France reste en tête avec la fécondité la plus importante d'Europe.
Bruno nous parle d'Occident désenchanté, bon, ça c'est, c'est son expression, mais plus largement ça veut dire qu'en Amérique du Nord, au Japon, on constate aussi les mêmes phénomènes.
Alors, au Japon, la fécondité est particulièrement basse, mais oui, c'est un phénomène qu'on observe dans beaucoup de pays. Après, on ne sait pas en fait vraiment expliquer pourquoi. Il peut y avoir des phénomènes très conjoncturels liés au fait qu'on vient de traverser une période difficile avec une inflation élevée, donc des questions de niveau de vie, de précarité, enfin ou de difficulté.
Est-ce que j'aurai assez d'argent pour élever mes
enfants ? Oui, exactement. Est-ce que je peux aussi avoir un logement de la bonne taille ? Enfin voilà, c'est pas toujours facile de se loger non plus. On peut avoir des inquiétudes par rapport au contexte global, avec une guerre aux portes de l'Europe, enfin, des choses comme ça. Et puis il peut y avoir peut-être des choses plus structurelles sur le désir d'enfant ou sur les questions de conciliation vie familiale, vie professionnelle, par exemple.
Est-ce que cette tendance pourrait se retourner ou au moins est-ce que la baisse pourrait s'arrêter ? Je ne vais pas vous demander de regarder dans votre boule de cristal, Sylvie Lemines, mais 663 000 naissances l'an dernier, est-ce que vous dites à un moment on va arriver à un plancher ?
Tout le monde aimerait avoir la réponse à cette question, mais en fait, on ne l'a pas. Si on regarde depuis le milieu des années 70, le nombre des naissances a régulièrement bougé entre un peu plus de 700 000 jusqu'à 800 000 et a même dépassé 800 000. Et là, c'est vrai que la baisse, elle dure quand même depuis plus d'une dizaine d'années, mais en fait, on ne sait pas.
Question de Claudine sur l'application France Inter concernant la démographie. Bon, vous parlez de la baisse des naissances, mais pourquoi ne mentionnez-vous pas la hausse des décès avec le vieillissement de la population et les années de baby-boom ? Cela devrait faire augmenter le nombre de décès, non ? Nous dit Claudine. Confirmation.
Ah oui, Claudine a tout à fait raison. Le nombre de décès augmente tendanciellement en France depuis le début des années 2010, parce qu'à partir de 2010, il y a les premières générations très nombreuses du baby-boom, hein, celles qui sont nées après 46 et jusqu'au milieu des années 70, qui rentrent dans la tranche d'âge des 65 ans et plus. Donc forcément, c'est des âges où on décède davantage. Et maintenant, il y a plusieurs générations du baby-boom qui ont 75 ans et plus. Donc oui, le nombre de décès augmente tendanciellement depuis 2010 et ça va continuer.
On peut se dire que peut-être l'an prochain, il y aura plus de décès en France que de naissances. Aujourd'hui, la différence est de 17 000, c'est
oui,
ça ?
Oui, la différence est de 17 000. Elle n'a jamais été aussi faible. Dans plusieurs pays européens, le solde naturel est négatif. L'INSEE avait publié des projections démographiques avec un indicateur de fécondité à 1,6 enfants. Le solde naturel pourrait devenir négatif en 2027. On attendra le bilan démographique de janvier prochain pour savoir ce qu'il en est.
Avant de parler des familles monoparentales, parce que vous avez mené une grande enquête aussi sur les familles monoparentales, les unions, les mariages, mariages et Pacs, on s'est beaucoup unis l'an dernier en France, Sylvie Lemines.
Oui, alors il y avait une tendance à la baisse du nombre de mariages et puis depuis pas mal d'années. Et puis en fait, il y a eu la période du confinement, enfin des confinements avec la crise sanitaire. Et donc il y a beaucoup de mariages qui n'ont pas pu être célébrés à ce moment-là. Et donc en fait, ces deux dernières années, on voit un rattrapage sans doute du nombre de mariages. Et c'est pour ça qu'ils sont légèrement en hausse en 2024 par rapport à 2023.
247 000 mariages l'an dernier, 204 000 Pax, aussi, ce qui est un niveau assez haut tout de même.
Ah oui, le nombre de Pax contractés chaque année est en augmentation régulière. Alors, le dernier chiffre connu, là, c'est sur l'année 2023, il est très légèrement inférieur à 2022, mais c'est un niveau qui est très élevé en effet.
Ça veut dire que les Français continuent de s'unir, mais dans le même temps font de moins en moins d'enfants.
Oui, on peut le résumer.
Je le lis comme ça, mais je ne sais pas.
Oui, alors en même temps, c'est assez compliqué parce qu'il y a des unions, il y a aussi des séparations qui sont plus fréquentes, mais c'est des tendances très longues en fait.
Question de Mathilde de Paris. Bonjour Mathilde.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors en fait, je voulais savoir si ces nouveaux chiffres en fait comptaient aussi, parce qu'on a parlé de la baisse de la fertilité féminine.
Fécondité.
Mais je voulais savoir si ça comptait aussi la baisse de la fertilité masculine et si Elle avait augmenté, quels étaient les chiffres, car il me semble qu'elle a aussi diminué.
Merci Mathilde pour cette question. Sylvie Lemines, fertilité n'est pas fécondité.
Non, alors fertilité n'est pas fécondité. Alors là, c'est vrai que quand on parle de fécondité, on a plutôt tendance à parler des femmes, mais on a aussi des indicateurs. Donc là, je ne les ai pas sous les yeux. J'invite tous les auditeurs à aller sur le site de l'INSEE.
Vous les avez en tête ou pas ?
Non, je ne les, les ai pas en tête. Mais voilà, on a aussi des indicateurs de ce qu'on appelle descendance finale, le nombre d'enfants que les personnes ont tout au long de leur vie, aussi bien pour les femmes que les hommes. Mais voilà, là, il s'agit de fécondité et pas d'indicateurs sur la fertilité des personnes.
Alors, les familles monoparentales, 3 enfants sur 10 vivaient en 2023 avec un seul de leurs parents. Ça, Sylvie Lemines, c'est un chiffre qui est en hausse ?
Oui, alors c'est un chiffre qui est en hausse, notamment parce que dans ces 3 enfants sur 10, une grande partie d'entre eux vivent ce qu'on appelle en famille monoparentale, c'est-à-dire qu'ils vivent dans un logement où ils ont un seul de leurs parents, et dans la très grande majorité des cas, il s'agit de leur mère. Et les familles monoparentales sont en augmentation très régulièrement depuis longtemps.
Est-ce qu'il y a des régions dans lesquelles il y a davantage de familles monoparentales que d'autres ?
Alors, il y a un territoire, j'ai envie de dire des territoires, parce qu'ils sont tous différents les uns des autres, mais dans lesquels il y a notablement beaucoup plus de familles monoparentales et donc d'enfants mineurs qui vivent dans une famille monoparentale, c'est les départements d'outre-mer, où il y a 47%. C'est beaucoup des enfants mineurs qui vivent en famille monoparentale, alors que c'est 22% dans l'Hexagone.
Donc, dans les territoires d'outre-mer, quasiment un enfant sur deux vit dans une famille monoparentale.
Oui, tout à fait. Et c'est en particulier, mais ce n'est pas sans doute la seule explication, mais il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont des enfants sans être en couple et donc qui se retrouvent dans cette situation de monoparentalité. Alors parfois, en vivant avec leurs propres parents à domicile, dans certains cas.
Ce qui implique des difficultés supplémentaires ou pas ? Est-ce que vous avez le profil social de ces familles ? Est-ce qu'il y a moins d'argent, grosso modo, dans une famille monoparentale monoparentale que dans une autre famille ? Est-ce qu'on peut dire ça aussi
oui,
simplement ?
Oui, oui, non, mais c'est tout à fait vrai. C'est un grand souci pour les politiques sociales et puis pour les personnes, évidemment, au premier chef, qui sont concernées par cette situation, parce que les familles monoparentales, eh bien, souvent, ce sont des mères qui sont plus souvent au chômage, qui sont moins souvent diplômées de l'enseignement supérieur, qui habitent plus souvent des logements suroccupés, comme on dit, mais de petite taille par rapport à la taille de la famille, et puis qui sont confrontés à des difficultés. C'est beaucoup plus difficile quand on doit s'occuper seul et concilier une vie familiale et professionnelle que dans des familles où les deux parents sont présents.
J'ajoute sur cette question de où vivent davantage les familles monoparentales, qu'elles sont surreprésentées dans les régions Occitanie, Provence, Alpes-Côte d'Azur et Corse, alors que les familles dites traditionnelles sont plus présentes en Bretagne, Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'avoir été avec nous, Sylvie Lemines, chef d'études démographiques à l'INSEE. Vous êtes prêtée au jeu, parce que présentation des résultats il y a 1h30, vous les avez détaillés avec brio et il y avait énormément de chiffres à donner. Merci d'avoir été avec nous. 13h46 sur Inter. Notre feuilleton. Quel est le quotidien d'un sportif français expatrié ? Nous passons cette semaine avec Vincent Poirier, basketteur de l'équipe de France, ex-Real Madrid et qui a signé il y a quelques mois dans l'un des meilleurs clubs d'Europe, l'Anadolu Efes Istanbul. Il joue d'ailleurs ce soir en Coupe d'Europe en France face à Paris. Deuxième épisode donc, Marie-Pierre Véraud, notre reporter, le retrouve chez lui au 40e étage d'une tour sur les rives du Bosphore.
Non mais quel palace ! Ah, c'est magnifique cette vue ! On voit le Bosphore, on voit même l'arrivée sur la mer Noire.
Ouais, la première chose qu'on voit quand on rentre dans l'appartement, c'est ça, parce que la porte d'entrée, elle est là. Et donc c'est tout de suite la vue, et de nuit, c'est encore plus joli. On voit une mosquée qui est dans les quartiers là-bas, je sais pas laquelle c'est pas la bleue. Voilà, c'était pour les raisons pour lesquelles j'ai pris cet appart.
Vous avez quelle superficie, là ?
Il y a 750 mètres carrés, je crois. C'est pas mal, c'est plus grand que ma maison à Madrid.
Un billard dans le salon.
Un billard. Assieds-vous. Alors j'ai 4 chambres. Chaque chambre a sa salle de bain, J'ai un bureau dans la chambre principale. Vous pouvez visiter si vous voulez.
Ah oui.
J'ai fait pour une équipe de foot.
Waouh. Alors attendez, on va faire une photo dans votre dressing.
Il y a tout ce qui me sert. Tous mes vêtements, mes chaussures, mes casquettes, mes bonnets, mes sacs.
Là, il ne faut pas avoir le vertige.
Ouais.
On est 40e étage. Hein.
J'ai vécu à Boston le 35e, donc ça va. Ça fait une petite marche tous les matins. Hein. De se lever et d'aller jusqu'à la cuisine. J'apprends le turc. J'apprends au quotidien parce que les gens parlent turc dans l'équipe, donc je demande des petites choses. J'essaye de comprendre déjà. Je sais dire tamam, good nighting, melaba, bir iki uç, dorvesh alta.
Ça c'est pour compter.
Pour compter, mais parler encore, non, c'est. J'apprends. Il y a des gens, il y a par exemple le gars qui s'occupe des équipements, il parle pas super bien anglais, donc si à un moment j'arrive à communiquer avec lui en turc, ça serait cool, mais même ça les fait rire. Et puis je suis quelqu'un d'à l'aise dans ma façon de m'exprimer, que ce soit dans des langues que je connais ou que je connais pas, j'ai pas peur, donc pourquoi pas. Si au bout de 3 ans j'apprends le turc et je parle turc, ça fera un bagage en plus, hein. Ça faisait partie aussi de ce challenge d'habituer notre ville, de se fondre dans cette ville et d'avoir des habitudes.
Vous écoutez de la musique?
Ouais, tout le temps, avant les matchs, après les matchs. Ça fait partie des choses qui te relaxent, qui te mettent dans une ambiance. Et c'est important aussi de savoir switcher. Voilà, pendant les matchs, je mets des musiques plutôt un peu intenses, énervées. Le soir, un truc un peu relax. J'écoute du rap français, j'écoute du rap américain, du booba, j'écoute du Nino, j'écoute un peu tout ce qui se fait, qui est bon en fait, que je trouve bon en tout cas. Mais voilà, mais je peux écouter du reggaeton parce que voilà, depuis que j'ai vécu à Madrid, le reggaeton, je le comprends et sur certaines périodes c'est intéressant. J'écoute de l'afro, j'écoute plein de. Ça dépend en fait des moments, mais ouais, un peu de tout. Hein. Des fois on se fait des musiques françaises, je sais pas, Céline Dion, voilà, dans la vanne ou dans des ambiances, on se fait des classiques et.
Et la musique classique, vous en écoutez ?
Je pense que c'est plus pour dormir, ça aide à dormir. Mais j'ai pas de problème pour dormir. Du coup, je préfère dormir dans le silence.
Feuilleton signé Marie-Pierre Véro. La suite demain, nous parlerons tatouage.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mardi à 13h50. Cyril Petit, du journal Ouest France, nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de danse.
Et on file à la chapelle d'Aligné dans la Sarthe, hein, précisément au Dream Club, une boîte de nuit. Sauf que Jérôme, il y a un risque en fonction du jour que ni vous ni moi ne puissions rentrer. Alors pourquoi ?
Les baskets ?
Non, même pas. Eh bien parce que cette discothèque organise des soirées réservées aux 13-17 ans. On appelle plus ça des booms, hein, non Jérôme, mais des teens parties, hein, plutôt des fêtes pour ados. Alors les règles sont simples, ni adultes ni alcool, et ça cartonne. Des centaines de jeunes ont participé aux 2 soirées organisées pendant les vacances de Noël.
Comment cela fonctionne, Cyril ?
Eh bien, lisons Ouest France. Dès l'ouverture des portes à 19h, le parking devient le lieu d'un balai de véhicules d'où sortent des adolescents avec en main l'autorisation parentale, sésame pour permettre l'entrée, en plus d'une pièce d'identité pour justifier son âge. C'est la première fois que nos bébés vont en discothèque, témoignent 2 mamans qui ont parcouru 35 km pour amener leurs enfants. Tarif 15€ avec boisson à volonté, non alcoolisée donc. Et puis, à 21h30, plus aucune entrée n'est possible pour assurer la sécurité. Fermeture à 1h du matin. Chaque jeune ne peut sortir qu'accompagné d'un vigile pour rejoindre le parent conducteur. Alors, chacun jugera si laisser son enfant aller en boîte de nuit à 13 ans est une bonne idée, mais en tout cas, des teens parties sont organisées dans d'autres villes, dont La Roche-sur-Yon, Nantes, Paris ou encore Toulouse.
Et de l'autre côté de la pyramide des âges, on sort également.
Et certaines boîtes de nuit se transforment en boîtes d'après-midi, pour faire swinguer les seniors. Ce sera le cas du Lotus qui va ouvrir à Marsac-sur-l'Isle en Dordogne pour, je cite, « toutes les générations jusqu'à 96 ans ». Elle organisera des thés dansants le dimanche. À Louis-Fer, en Loire-Atlantique, le Carré Club a accueilli en 2024 des résidents en Népad. On passe des musiques qu'on ne passe jamais, qu'on file gérant, et le DJ joue même quelques morceaux d'accordéon. Ils oublient tous leurs maux, douleurs, perte de mémoire ou déambulateurs, confiés à l'éclaireur une animatrice d'Epad. La danse, c'est bon pour la santé et c'est bon pour le moral.
Et pour les boîtes de nuit dont on sait que beaucoup sont en difficulté économique. Et partout en France, Cyril, les danses traditionnelles sont en danse.
Alors, bal folk, musette, country, guinguette, pas un jour sans un événement quelque part en France, à Bressuire, dans les Deux-Sèvres. L'association Bella Musica vient de naître pour organiser un bal chaque mercredi au programme tango, slow, passo, marche, cha-cha-cha, mambo, Madison, des danses en couple et des danses en ligne pour les personnes seules. Chaque semaine, des artistes parcourent aussi la France. Le 18 janvier à Bonneval, en Eure-et-Loire, le groupe Folk en Vrac anime son 1000e bal. Est-ce la fin des thés dansants ? Ça fait 30 ans que j'entends ça. Il y a bien un renouvellement, estime Isabelle Debar, qui avec son orchestre enjaille le Grand Ouest.
Combien compte-t-on de danseurs de bal en France ? Est-ce qu'on sait ?
Eh ben, c'est compliqué. J'ai appelé le sociologue Christophe April, l'auteur du livre Les Mondes du Bal. Aucune étude dédiée n'existe, mais il estime qu'il y a entre 1 et 3 millions de danseurs, possiblement plus que de licenciés de football. Il détaille, de la rave party au fest noz, il y en a partout avec un brassage intergénérationnel et social. Des maçons côtoient des chirurgiens, on bouge sans se raconter forcément qui on est. Alors, il regrette toutefois que ces pratiques ne soient pas valorisées. Je le cite, si vous dites dans un dîner mondain que votre enfant pratique la country, ça crée un grand silence. Dans notre culture, les danses de bal sont des divertissements, pas des arts, et peuvent être perçues comme des danses de plouc. Et si, Jérôme, on prenait aujourd'hui les préjugés et qu'on les envoyait valser.
Ce que vous avez contribué brillamment à faire, Cyril Petit, du journal Ouest France, de C'est la France à C'est une chanson, avec une écrivaine à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier. Il s'agit de Marie Desplechin.
À qui l'on doit le texte « Touché par les fées », texte qu'elle a écrit pour Ariane Ascaride et qui raconte le parcours de la comédienne. Le spectacle se joue actuellement sur la scène de la Scala à Paris. Et c'est de la Mano Negra que Marie Desplechin a souhaité me parler. Un groupe qu'elle a découvert à la toute fin des années 80.
J'ai 30 ans, ma vie est un bazar international et la Mano Negra fait que ça a quand même de l'allure. D'abord c'était très très joyeux, musicalement c'est formidable. Il y a les cuivres, les guitares, la basse, ils sont tellement forts. Et après ils sont assez divers quand même, parce que t'as des chansons qui sont plus mélodiques, plus douce. Après, il y a des chansons qui sont vraiment complètement déjantées. Tout est tenu, hein. Mais il n'y a pas deux chansons qui se ressemblent vraiment.
Et pourquoi c'était le bazar international dans votre vie à ce moment-là ?
Eh bien, comme pas mal de gens qui arrivent à une trentaine d'années, au point de vue sentimental, c'est un bazar. Hein. Et 30 ans est un bon âge pour tirer la nappe et tout renverser par terre. Et c'est un petit peu ce qui se passait, monsieur.
Vous avez tout remis en cause dans votre vie à ce moment-là ?
Oui. Tout était à reconstruire. C'était un chantier. Et je me souviens, ma meilleure copine Marie-Ange, qui m'emmène voir la Mano Negra. Et je me souviens le bonheur que c'est. Je me souviens de sauter, je me souviens, eux qui sont nombreux sur la scène, dans des ballons, marchent sur les gens dans la foule. Et pour moi, c'est l'élan de ce groupe-là, et c'est l'élan des 30 ans.
J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça. Ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi.
Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de t'expliquer comme ça. Ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi.
Alors, Frédéric, cette chanson, c'est Pas assez de toi, tube extrait du deuxième album de la Mano Negra.
Album sorti en 1989, alors que l'existence de Marie Desplechin était donc en plein chantier.
Cette chanson-là, dans le cadre du chantier, résume les relations sentimentales que j'avais avec un type dont j'étais absolument dingue. Et là, ma conception, qui n'était pas une très bonne conception, je ne la recommanderais pas, mais qui peut tactiquement se révéler utile, c'est de jouer comme si ce n'était pas si important que ça, en fait. Je n'en ai rien à foutre. Vous voyez, vous le prenez d'assez haut. Vous faites comme si vous n'étiez pas vulnérable. Mais tout le monde sait bien que vous l'êtes, c'est une posture. Mais cette posture, d'une certaine manière, elle vous protège. Et alors, dans ce cas-là, je crois qu'on était deux à l'avoir, cette posture. On avait la même. On était tous les deux très, très névrosés. Et donc, cette chanson, en fait, je savais qu'il entendait ce que j'entendais. C'était vraiment une chanson qu'on pouvait partager. Parce que tous ces scénarios-là, on voit très bien que c'est qu'en fait, il est dingue, je peux très bien me passer de toi. Il dit exactement l'inverse. Je ne peux tellement pas me passer de toi que je suis prête à mettre le feu au monde entier pour ça. Mais je te le dis, je peux très bien me passer de toi. Donc c'est une posture.
Et cette chanson, elle a surgi précisément au moment où vous étiez dans cette relation.
Ah mais exactement, c'est 30 ans quoi. Et une chanson, ça remet de l'ordre. Vous voyez, ça vous donne un rythme, ça vous donne une forme. Vous l'avez dans la tête et quand vous marchez dans la rue, quand vous vivez les choses, ce qui sinon ne serait qu'un chaos, a la forme de cette chanson.
J'ai comme envie d'une fin torride comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi. Je peux très bien me passer de toi.
Cette histoire d'amour, elle a duré combien de temps ?
Eh bien, cette histoire d'amour dure, hein, puisque ça fait 35 ans, monsieur, on est mariés. Et voilà, on a vécu plein de choses ensemble. Et quand cette chanson repasse, on peut se regarder, savoir très bien ce qu'elle nous dit.
Donc ça veut dire qu'en vrai, vous ne pouvez pas vous passer de lui.
J'espère qu'il ne peut pas se passer de moi non plus.
Écoutez encore ensemble cette chanson ?
Ça arrive qu'on l'entende si on est dans une fête ou dans la voiture, par exemple. Vous avez 7 heures de voiture, on est à 3 dans la voiture, chacun à son tour passe sa chanson. Et donc forcément, on va la repasser. Ah, ça m'enchante, c'était tellement bien.
Pas assez de toi, la Manon Negra. C'était donc, Frédéric, le choix de l'écrivaine Marie Desplechin.
Dont le texte, touché par les faits, se joue en ce moment à la Scala à Paris, porté par la comédienne Ariane Ascaride.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Quel est votre programme aujourd'hui ?
Eh bien, on démarre une nouvelle série sur le capitalisme, une histoire de la Terre. Premier épisode aujourd'hui.
À tout de suite.